Bonsoir à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Suite et milieu d'une semaine tout entière consacrée à la pensée complexe du philosophe et sociologue Edgar Morin dans Les Nouveaux Chemins. Une pensée difficile, une pensée délicate, une pensée complexe, pleine de finesse et qui pense contre elle-même. C'est toute sa difficulté et aussi toute sa vertu. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue de nouveau donc au nouveau chemin de la connaissance. On passe toute cette semaine avec vous, on est à mi-chemin, on va reprendre la conversation aujourd'hui là où nous l'avions laissée hier. Nous parlions de l'erreur et nous parlions plus exactement, dans ces erreurs, des vérités partielles, des vérités mutilées. Vous reprenez d'ailleurs à votre compte implicitement une expression qui est celle de Spinoza, qui dit ceci, qu'il n'y a dans l'erreur rien de positif en somme, ou rien de négatif, pardonnez-moi, mais que toute erreur n'est qu'une positivité mutilée. Une pensée mutilée, une vérité finalement incomplète. Alors, que faut-il faire? Comment surmonter cette incomplétude? Est-ce que c'est en adhérant à une vérité totale, peut-être indûment, ou bien est-ce que c'est en admettant l'impossibilité où nous sommes d'avoir une connaissance complète des choses?
De toute façon, il faut admettre l'impossibilité de la complétude, mais il faut quand même vouloir essayer d'avoir la connaissance la plus complexe, la plus reliée possible. Ce que j'ai voulu dire en disant qu'une vérité partielle n'est pas seulement une vérité partiale, mais aussi en même temps une erreur, ça veut dire qu'on peut à la fois être dans la vérité et dans l'erreur, c'est-à-dire que l'antinomie absolue entre vérité et erreur, sans être dissoute, mais dans certains cas, il y a un lien entre elles. Bon, quand Christophe Colomb
croit partir aux Indes.
Découvre, oui, compère, c'est ça. Non, mais il croit avoir trouvé les Indes. D'ailleurs, c'est le joli poème qui dit « Tu cherches l'Inde, tu trouves l'Amérique ». C'est-à-dire, à la suite, dans le fond, d'une vue juste, ce n'était pas erroné de penser que la Terre était ronde et qu'il allait trouver. Mais ce qui était erroné, c'était de ne pas imaginer qu'il pût y avoir un continent entre l'Inde et l'Europe. Là aussi, voici un mixte d'erreurs et de vérités. Et donc, c'est ça qui doit nous montrer, doit sans arrêt mobiliser notre attention. On peut être dans l'erreur absolue, dans l'illusion totale.
Il n'y a pas une dissymétrie entre l'erreur et la vérité, dans la mesure où on peut être dans l'erreur absolue, mais dans la vérité absolue, non, à moins d'être dans l'erreur.
Vous avez raison. C'est-à-dire, être dans la vérité absolue, c'est sans doute l'erreur absolue elle-même. Oui, vous avez raison, il y a une dissymétrie. Mais je pense que les vérités, il y a d'abord les vérités de fait, celles qui sont vérifiables. Même si pendant un temps, on n'a pas pu les vérifier, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que les dégâts de la révolution culturelle en Chine, bon, et ben, après on le sait, mais il y a des vérités de fait, des événements historiques, bataille de Valmy ou le 14 juillet. Puis, il y a les théories, les interprétations. Et alors là, ce sont des interprétations qui n'ont pas une valeur absolue. Vous avez les interprétations de la Révolution française se sont beaucoup modifiées, bien que les mêmes événements restent reconnus. Et donc, moi, je crois que c'est dans le domaine de ces vérités-là, qu'elles soient de théorie ou d'interprétation, qu'il faut penser que nous ne sommes pas sûrs absolument d'être arrivés à la vérité définitive. Cela dit, il y a un autre type de vérité, qui sont les vérités du cœur. Moi, je crois en la vérité de l'amour ou de la fraternité.
Là, vous êtes très pascalien, là.
Oui, aussi, bien sûr.
On en revient au tropisme religieux de votre système, implicitement,
mais
Edgar
sans
Morin.
Aller jusqu'au mot religieux, mais encore, je suis prêt, je vous l'ai dit, à y aller. Mais, vous savez, je suis à la fois très rationnel. Être rationnel, c'est pas rationaliste. Pas rationaliste veut enfermer le monde dans sa logique qu'il croit rationnelle. Non, je suis très rationnel et je sais quelles sont les limites de la raison. Et je sais. Non, il y a aussi une autre chose qui est révélée depuis peu par les travaux de Damasio et quelques autres. C'est qu'il n'y a pas de raison sans passion. Les études maintenant que l'on a fait sur le cerveau ont montré que
Il faut rappeler, pardonnez-moi rapidement, hein, que Damasio, les études de neurologie de Damasio reprennent la théorie de la localisation cérébrale, situant selon les parties du cerveau les différentes fonctions, la fonction poétique, la fonction rationnelle, etc. Voilà.
Et il est démontré que dès qu'une activité rationnelle est en jeu, et un centre de la passion se trouve, l'affectivité se trouve mobilisée. Ça veut dire, même le mathématicien qui est dans les mathématiques les plus austères a la passion de ses mathématiques. Donc, il n'y a pas de raison froide, pure, glacée. Et moi, là, je pense qu'on arrive à cette idée, certainement, il n'y a pas de raison sans passion. Et moi, j'arrive à l'idée aussi complémentaire, pas de passion sans raison. Moi, je pense que dans la passion la plus intense, qui peut être amoureuse, il faut garder une petite lueur de raison. Il faut garder raison toujours dans la passion. Voilà.
Donc porter la lumière de la raison jusque dans la passion et faire la part de la passion à l'intérieur de toute démarche rationnelle.
La petite flamme.
La petite flamme, voilà. La passion serait une flamme et la raison une lumière dans ces conditions.
La passion serait un grand feu et la raison serait une petite lumière. Ou bien la raison, la passion nous entraîne dans la nuit obscure dont parle Jean de la Croix. Et la raison est ce qui doit veiller dans cette nuit.
Comme toujours, Edgar Morin, dans votre façon de penser, on retrouve une origine évidemment incarnée. Et pour cause, vous êtes le penseur selon lequel, enfin l'un des penseurs, vous adhérez à l'idée selon laquelle on ne pense pas séparément du monde. Si vous adhérez à l'idée selon laquelle on ne pense pas séparément du monde, vous ne pouvez pas adhérer à l'idée d'une vérité absolue. C'est aussi le sens, me semble-t-il, de la place que vous accordez dans votre conception, dans votre vision du monde, à l'animal, qui, à la différence de l'homme, si j'ose dire, sans qu'il en ait conscience, justement, puisqu'il ne dispose pas de conscience réflexive et donc ne sait pas qu'il va mourir, tout cas à ma connaissance, l'animal, lui, est d'emblée inscriptible dans le monde et ne prétend pas s'en abstraire. Et c'est une des erreurs que l'animal évite et une des leçons, peut-être, de sa condition qu'il faudrait retenir.
C'est-à-dire que tout d'abord, je pense que là aussi, on a disjoint dans notre savoir notre nature proprement humaine, je veux dire mentale, spirituelle, culturelle, de notre nature animale, parce que nous sommes aussi des animaux, des primates, des mammifères, des vertébrés, etc. Donc, et tout ça est absolument séparé, alors que c'est inséparable. Nous avons une double nature, deux natures en une. Donc, et que je dirais même que ce que nous faisons, ce qu'il y a de plus humain, est en même temps ce qu'il y a de plus biologique. Naître, eh ben, c'est une cérémonie d'état civil et en même temps une cérémonie religieuse pour les croyants.
Mais c'est pas la même. Non. Si c'était la même chose, la paternité serait une affaire génétique.
Certainement, mais il faut dire que l'acte de naître est accompagné par ce qu'il y a de plus humain, qui est l'acte le plus biologique. L'acte de mourir, qui est aussi ce qu'il y a de plus biologique, est accompagné par ce qu'il y a de plus humain, les funérailles. Même manger, c'est pas seulement la gastronomie, c'est la commensalité, tout ça. Donc tout ça est profondément lié. Mais il y a aussi un autre point sur lequel nous sommes des super animaux. C'est que je définis l'animalité à partir du manque. Parce que les végétaux ont trouvé une astuce géniale, c'est-à-dire ils ont capté l'énergie solaire pour pouvoir faire leur propre travail de végétaux, se développer, vivre, etc.
La photosynthèse.
Alors que le monde animal n'a pas trouvé le moyen d'utiliser. Alors, qu'est-ce qui lui reste? Dans ce manque, il est obligé à manger des plantes, des végétaux, d'autres animaux, etc. Et ainsi, à condamner à se dévorer lui-même. Et je pense que plus on se développe dans la complexité animale, plus il y a des manques. Nous-mêmes, du reste, nous avons des carences par rapport à d'autres primates, par exemple en vitamines. Nous ne produisons pas certaines vitamines, il faut aller les chercher dans le pamplemousse ou dans d'autres choses. Le sel, dès la préhistoire, l'humanité est allée chercher le sel. Bon, donc, dans le fond, nous sommes animés par le manque. Le manque animal s'est découpé en nous, il y a une insuffisance, et l'insuffisance crée le besoin et crée ce mouvement, ce dynamique qui conduit au voyage, à la science, à tout ce que vous voulez.
Vous connaissez cette réponse de Champfort à un homme très riche qui voulait lui donner un peu d'argent. Il lui dit « Non merci, je n'ai pas besoin de ce qui me manque
». Voilà, c'est très joli, oui. Mais là, notre manque nous pousse à autre chose. Je pense que le manque d'argent, qui est un problème aussi devenu des sociétés monétarisées, est une des formes de manque qui n'est pas le manque existentiel.
Est-ce que dans votre logique, à ce moment-là, tout manque n'est pas d'une certaine façon tout de même imaginaire, né d'une représentation, d'une pression sociologique, d'une pression sociale, de l'idée par exemple qu'il faudrait avoir telle ou telle chose sans quoi nous en manquerions, de l'idée qu'il faudrait vivre telle ou telle expérience sans quoi ce serait un manque, en somme, de l'idée que si nous n'avons pas ce dont notre voisin dispose, alors nous en manquons.
Dans notre civilisation, dans notre société...
Une logique compétitive, tout simplement.
C'est incontestable. Ce n'est pas seulement la compétition. Oui, il y a la compétition mimétique, comme dirait Girard. Mais René Girard, le fait que des besoins artificiels sont suscités par la publicité, notamment sur des produits prétendant donner la beauté, la séduction, etc. Je pense qu'on a créé... Vous savez, c'était Karl Marx qui disait, parlant du capitalisme, il ne crée pas seulement un produit pour le consommateur, il crée aussi un consommateur pour le produit. Donc, on crée des besoins de produits qui n'existaient pas. Bien entendu, certains besoins ne sont plus tellement imaginaires. Nous avons besoin de chauffage
central.
D'un
téléphone portable.
Oui, c'est devenu... Mais enfin, là encore...
Avez un téléphone portable. Je ne donnerai pas le numéro à l'antenne, mais vous avez un téléphone portable.
Bien entendu.
Vous en aviez besoin ? Est-ce que depuis que vous l'avez, vous vous demandez comment vous avez fait pour vivre sans ?
Oui, mais en même temps, il m'est arrivé de le perdre, d'être désorienté pendant quelques heures, et puis après de me rendre compte que je pouvais... Enfin, autrement dit, vous savez, j'ai vécu une expérience de manque qui était l'expérience de l'occupation. C'est-à-dire, très rapidement, on pouvait trouver du beurre, on pouvait trouver du lait, on pouvait trouver tout ce qu'on veut, et brusquement, tout ça, ça s'est considérablement raréfié. Alors, le manque est arrivé, on avait besoin, mais en même temps, on essayait de se débrouiller et de subsister dans le manque. On continuait à vivre. Donc, je pense qu'on peut se trouver privé de certaines choses qui nous semblent nécessaires. Prenez la voiture. Je pense que la voiture est devenue un besoin. Et je pense aussi que la voiture est une des plus belles conquêtes de l'homme, parce que c'est à la fois un jouet, quelque chose qui vous donne l'ivresse de la puissance, de la puissance d'un accélérateur, et quelque chose qui vous aide à circuler rapidement, mais à condition qu'il n'y ait pas les embouteillages.
Mais c'est aussi quelque chose qui, vous donnant les moyens d'aller plus vite, vous impose de le faire.
Qui peut, en effet, nous pousser à le faire toujours plus. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'était Ivan Illich qui avait montré que désormais, dans les mégapoles, on va beaucoup plus lentement avec la voiture que si vous prenez un transport public, genre le métro, et que est arrivée une intoxication automobile. Donc, nous sommes intoxiqués, pas seulement par la cigarette, pas seulement éventuellement par des drogues, nous sommes intoxiqués par des objets que nous croyons utiles. Je ne pense pas qu'on puisse revenir à un état d'ascétisme, je dirais, à la Diogène, et vivre dans un tonneau, encore qu'à la limite nous pourrions le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de satisfaire nos besoins les plus importants, les plus vitaux, et d'essayer de nous débarrasser de ce que j'appelle les intoxications.
Mais est-ce qu'il y a quand même en vous, opératoire, dans vos écrits, Edgar Morin, la nostalgie de l'harmonie intra-utérine, dont vous reconnaissez aux mammifères d'ailleurs la capacité à y retourner? Vous dites ceci, le mammifère cherche et trouve pleine satisfaction dans des états de sommeil, repos, paix, qui semblent porter en eux la réminiscence de l'harmonie intra-utérine. En somme, que faire ? Est-ce qu'on se contente de vivre dans un univers prométhéen qui fabrique de nouveaux désirs et donc crée de nouveaux manques imaginaires qui finissent par devenir consistants puisqu'ils déterminent des comportements humains et des comportements collectifs ? Ou bien est-ce qu'il faut lutter contre cela et au risque d'en revenir à une société prémoderne et où finalement les besoins, certes, ne sont pas imaginaires, sont véritables, mais pour le coup ne sont pas certains d'être comblés ?
Tout d'abord, je crois qu'il y a une aspiration à l'harmonie qui n'est pas satisfaite dans un monde où il y a hiérarchie et compartimentation spécialisée. Mais, justement, on essaye de satisfaire ces besoins d'harmonie. Comment ? Avec les gens qu'on aime, parfois en famille, dans des fêtes, dans des communions, dans les vacances, dans les... Il y a ce besoin d'harmonie qui est en nous, essaye de trouver ici et là sa place. Et puis, moi je pense qu'on peut faire une réforme, quand dans une grande société, écoutez, partout où vous avez la hiérarchie et la division du travail, le retour à l'harmonie n'est pas possible. Hein ? Ça serait... Mais vous pouvez essayer de dépasser ce type de société, tout en conservant les avantages, et créer des oasis d'harmonie de plus en plus grands. À la fin du 19e siècle, avec cette urbanisation très rapide des villes allemandes, il y a un petit groupe d'habitants de Munich qui est allé en Suisse, sur le bord du lac Majeur, dans une colline qu'ils ont appelée Monte Verita. Et là, ces gens-là ont essayé de vivre autrement. On ne parlait pas du bio à l'époque, mais de prendre des nourritures qui appellerait aujourd'hui biologique. Ils se vêtaient comme un peu dans l'Antiquité, au lieu d'avoir nos costumes.
Est-ce que ça vous semble désirable ?
Ils dansaient. Non, ça me semble, ça exprime, d'abord, ce genre de choses ne peut pas durer très longtemps, mais ça exprime notre aspiration. Et vivre, moi j'ai vécu parfois dans ma vie, mais c'est des moments qui nécessitent des conditions extérieures. Dans mon journal de Californie, j'ai vécu pendant un an dans des conditions absolument heureuses et d'harmonie, mais je dois payer, c'est comme le bonheur dès qu'il cesse, il se paye, parce qu'on cesse d'être heureux. Quand vous perdez une personne que vous aimez, vous êtes malheureux. Donc je pense qu'il faut vivre, essayer, si on peut avoir des états d'harmonie ou de bonheur, mais qui ne peuvent pas couvrir toute la vie, mais il y a aussi des moments d'harmonie et de bonheur qui sont très fugitifs et qui peuvent durer très peu, mais qui vous donnent cet sentiment. Un coucher de soleil, je ne sais pas moi, le papillon dont je vous parlais.
Un chant navarro ?
Voilà.
Un chant navarro, on va l'entendre.
Voilà, un chant navarro.
Les Navarro occupent une place importante, si j'ose dire, autant que Bob Dylan chez vous, Edgar Morin, vous les aimez.
C'est-à-dire que d'abord j'ai toujours eu un sentiment immense pour ces peuples d'Amérique, pas seulement du Nord mais aussi du Sud, qui ont été refoulés, morcelés, presque détruits entièrement, mais... Et qui portaient en eux des vertus, des sagesses, un art, comme cette musique. Les chants des Sioux et des Navarro m'a toujours profondément ému. Et moi, j'ai toujours été, pas seulement parce que ce sont été des gens qui ont été opprimés, moi je suis pour les vaincus, là, en général, mais parce que aussi ils portaient en eux certaines mêmes vérités qu'on retrouve sur un autre plan aujourd'hui avec les idées écologiques et autres.
Alors, l'une des expériences que vous décrivez dans votre journal de Californie, au tout début de votre journal de Californie, c'est très exactement justement le contraire de ce qu'on vient d'entendre et de ce chant navarro. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans votre façon de faire, justement, c'est que vous décrivez, vous êtes le greffier de ces moments où vous cédez d'une certaine manière à tout ce qu'il y a de plus occidental en vous, c'est-à-dire de plus sécessionniste, en somme, de plus cloisonnant. Vous le dites à un moment, vous racontez comment vous avez manqué un avion. Bon, ça arrive à tout le monde. Et vous dites ceci, un sentiment de rage impuissante fermente en moi. Il cherche à se fixer sur un coupable et à tirer une éclatante vengeance. Les coupables, ce sont les deux hôtesses, qui me semblent de plus en plus laides et hypocrites. Elles ont dû faire passer indûment quelques amis, puis se laisser soudoyer par des passagers de dernière heure. Je commence à écrire mentalement une lettre cinglante et menaçante au directeur d'Air France. Les hôtesses comparaissent à mon tribunal, etc., etc., etc. En d'autres termes, le comportement de l'homme revenu à l'état de nature, de l'occidental revenu à l'état de nature, c'est-à-dire l'occidental mécontent, le client mécontent finalement, hein, qui est comme l'homme dans sa voiture, par exemple dans un embouteillage, c'est-à-dire celui qui vraiment pense à lui avant de penser aux autres, et qui considère comme une injustice tout ce qui n'exauce pas le droit qu'il croit être le sien. Ce comportement-là, c'est le contraire des états que vous essayez de penser ou de la sérénité que vous traquez. Mais alors, comment faites-vous le lien, justement, entre ce vertige, ce moment où vous redevenez un imbécile, c'est-à-dire un client mécontent, un client pas content qui veut écrire à la compagnie et faire valoir ses droits, hein, et un homme de la société de consommation finalement, et cette aspiration justement à la beauté qu'on retrouve chez les Navarro.
Vous savez, déjà en écrivant ceci dans mon journal,
vous vous soignez.
Je me moquais de moi, bien entendu, je me moquais de moi, je prenais cette distance ironique et même presque sarcastique pour montrer à quel point j'étais grotesque. Et je pense qu'il est important justement de pratiquer ce genre. Mais il est évident que je suis à la merci de 1000 petits énervements qui viennent de 1000 contretemps. Autrement dit, je ne suis pas quelqu'un qui suis serein en permanence. Je ne suis pas un gourou ni un yogi. Mais j'essaye de me libérer et de trouver mes moments heureux et mes moments d'extase. Au moment où je l'écris, j'en souriais déjà. Et je crois que c'est une chose que j'ai bien fait de noter ceci, parce que je pense qu'il ne faut pas, et ce n'est pas faire sa propre statue. Ce que je n'aime pas, c'est que quand on parle de soi, on commence à faire sa propre statue. Et moi, j'essaie, enfin, peut-être que je ne les détecte pas tous, d'indiquer mes petits manques, mes petits défauts, mes petites conneries, etc. Vous savez, j'ai même publié des journaux, un journal, je crois, en 1994, qui s'appelle L'année scisive. Enfin, et quand on voit ces journaux, je parle aussi de mes petites thèses. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que dans une journée, je peux passer d'un petit souci mesquin d'être très mécontent parce que j'avais demandé des œufs des œufs coques 3 minutes et demie et très mécontent parce qu'ils ont duré 4 minutes, et puis après je passe aux considérations planétaires, etc. Enfin, on a plusieurs niveaux de vie, ce petit niveau égocentrique et ridicule, et puis un niveau un peu plus noble parfois. Donc c'est ça la vie, c'est ça ma vie en tout cas.
Et c'est aussi à cela que tient...
Je ne suis pas un saint. Oui.
Heureusement, c'est aussi à cela que tient le plaisir de votre lecture, parce que quasiment dans la même page, hein, on peut lire un peu plus loin... Je me suis senti branché, donc on passe des hôtesses vilaines et du mécontentement et du client pas content à je me suis senti branché sur le patrimoine planétaire, animé par la religion de ce qui relie, le rejet de ce qui rejette. C'est très beau d'ailleurs. Une solidarité infinie, ce que le Tao appelle l'esprit de la vallée, qui reçoit toutes les eaux qui se déversent en elle. On passe de l'œuf coq au Tao.
Oui, parce que quand je me suis mis à écrire ce livre, j'ai eu ce sentiment de peut-être analogue à celui de l'araignée qui fait sortir de son derrière un fil et une toile pour faire une toile. J'ai eu ce sentiment de quelque chose qui me reliait à beaucoup plus qu'à moi. Et j'exprimais exactement ce que je ressentais. Donc, il y a des moments où je me sens comme ça, presque mystique, c'est vrai.
On en vient, Edgar Morin, à un des termes cruciaux de votre pensée, qui est la notion de reliance, qui est un terme inventé, pas par vous, mais par le sociologue Marcel Boldebal, qui comble, dites-vous, selon vous, un vide conceptuel, et où vous dites que, finalement, être relié est une activité passive, on n'a pas le choix, hein, c'est l'araignée qui tisse sa toile, l'insecte est malgré lui relié à la toile qu'a tissé l'araignée. Oui. En revanche, être reliant, c'est être participant. Être reliant, c'est être activant. C'est participer donc au tissage. Et combler le manque.
Certainement. Parce que ce mot de reliance, en effet, avait été inventé par un ami sociologue belge, Marcel Boldebal. Et j'ai l'impression qu'il manquait. C'est curieux. À quel point on est dans une civilisation qui dit ceci, c'est qu'il n'existait aucun substantif pour indiquer ce qui relie. Et d'ailleurs, j'étais surpris assez récemment que des Québécois amis m'ont dit mais vous savez, ça existe déjà en Québec. Ah ben, je ne savais pas. Enfin, de toute façon, moi, je l'ai pris. Et dès que ce mot m'est venu, j'ai dit, ben voilà, il exprime ce qui, pour moi, doit être une nécessité. Et c'est ainsi que, disons, la pensée complexe, on peut dire, c'est une pensée qui opère la reliance entre des savoirs morcelés et dispersés qui ne communiquent pas. Et l'éthique complexe est une éthique de la reliance entre humains.
Oui. Et surtout, une pensée du rapprochement entre la position du spectateur et celle de l'acteur. Je vous lis. Coucher de soleil, page 121 de votre journal de Californie. À moi, Chateaubriand. Ça, c'est vous qui l'avez écrit.
Oui, c'est moi qui l'ai
écrit. Oui, à vous, Chateaubriand. Donc. Le globe rouge-orange du soleil plonge rapidement dans l'eau. Un instant, la partie immergée continue apparemment à briller sous l'océan. C'est, bien sûr, le reflet sur l'eau du demi-disque encore visible qui donne cette illusion. On a l'impression fabuleuse que le soleil va régner dans un empire sous-marin aussi immense que le ciel. Il entre dans le royaume d'Osiris. Le cosmos est soudain transfiguré par une violente révolution chromatique. La mer devient incroyablement mauve. L'horizon est écrasé de couleurs intenses. Tous les nuages épars dans le firmament rosissent. Mais plus belle que toutes est la couleur bleue translucide, très claire, absolument immatérielle, qui envahit la moitié occidentale du ciel. Je regarde ce ciel et je vois un grand quadriréacteur gris-bleu glisser doucement en silence. Parenthèse finale. Pourquoi est-on si concerné, ému par de tels spectacles? Comment faites-vous pour être effectivement concerné ou ému par ce que vous regardez? Puisqu'après tout, le sens de la vue, Edgar Morin, est un sens qui nous met à distance du spectacle qu'on regarde. Comment faites-vous pour vous sentir concerné, c'est-à-dire finalement actif, c'est-à-dire relié ou reliant ce que vous regardez?
Vous savez, d'abord, nous sommes des animaux esthétiques. Esthétiques, c'est-à-dire qui ressentons une impression de beauté, et sans doute ça a dû exister peut-être, je crois, chez les hominiens, j'en sais rien. Mais il est évident que le fait d'avoir des mots pour l'exprimer permet de mieux comprendre à la fois le tout et les parties. Nous sommes, et disons, je crois que c'est une des choses les plus courantes, l'émotion devant un coucher de soleil, l'émotion devant la mer. Sans doute quelque chose de notre identité cosmique se manifeste, car nous ne sommes pas seulement des animaux, nous portons en nous molécules, atomes, particules qui viennent des origines de l'univers, nous portons en nous toute l'histoire de l'univers, en tant que petit microcosme. Et je crois qu'il y a des résonances en nous, des vibrations, comme on disait à l'époque de 68, justement, good vibrations. Nous vibrons, nous avons des émotions. Et, la beauté animale, moi j'admire mes chattes, qui sont d'une beauté splendide, comme les autres chattes, d'ailleurs, dans leur mouvement. Et je crois que nous avons ce sentiment esthétique que nous cultivons, évidemment, par la culture.
Vous dites que le spectacle de la beauté n'est pas un spectacle, c'est une activité.
Spectacle, c'est le mot qui renvoie au système oculaire. Le regard nous permet, pas seulement, c'est la mise en distance, mais c'est l'absorption de ce qui est distant en nous, parce que tout ceci arrive sur notre rétine, et tout ceci qui arrive sur notre rétine est transformé immédiatement en un code binaire et va dans notre nerf optique. Nous sommes pénétrés par ce que nous voyons. Nous sommes pénétrés parce que ce n'est pas une photographie. La perception n'est pas une photographie, la perception est une reconstruction à partir d'une traduction. Et c'est ça, cette reconstruction qui nous émeut.
On va revenir dessus, Edgar Morin. On va revenir dessus, on va aussi parler d'abîme demain avec vous, Edgar Morin.
D'accord.
Vous parlez de résonance, il y a des résonances dans tout votre système, dans toute votre conception, votre vision du monde. On continue demain avec vous, cette traversée de votre œuvre. Je rappelle quelques titres, notamment surtout la réédition prochaine de La Méthode en deux volumes sous coffret au Seuil, dans la collection Opus, le 14 février 2008, donc le 14 février prochain. Demain, on parle d'Abîme. À la technique aujourd'hui, Axel Brizard. À la réalisation, Ghislaine David, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richet. France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve à Voix Nue sur France Culture.